Bonjour Monseigneur Mika.
Bonjour.
Avec vous, cette semaine, nous allons aborder différents sujets. Nous allons commencer par votre regard de pasteur sur l'actualité du monde. Cette semaine, la question des migrants en mer a occupé les médias et la vie politique. Alors, pour un rappel des faits, le navire Ocean Viking, affrété par l'association SOS Méditerranée, a porté secours à 234 migrants. L'arrivée de ces personnes migrantes en France a suscité une vague de débats. Fallait-il les secourir? Fallait-il les conduire en France? Faut-il les accueillir et les garder en France? Ce sont les questions que nous entendons à longueur de débat et de discours politiques depuis plusieurs jours. Alors la question que je voudrais vous poser, que dit l'Église à ce sujet? Est-ce qu'il y a une réponse, une analyse et une réponse chrétienne à apporter à ces questions au sujet des migrants qui arrivent en France?
Il y a une réponse chrétienne, bien évidemment, qui n'est pas sans incidence sur une dimension politique, mais ce n'est pas une réponse d'abord politique. La mission du politique, c'est d'organiser les pays, d'organiser les flux des gens qui rentrent, qui sortent éventuellement, etc., etc. Bon. L'Église, elle se situe du point de vue de l'Évangile et c'est son unique préoccupation. Et il faut que nous ayons en tête l'indignation et l'appel que le pape François avait adressé depuis la Grèce l'année dernière, je crois. La Méditerranée est en train de devenir un cimetière froid sans pierre tombale. Je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Je crois que, chrétien, on ne peut pas ne pas se laisser atteindre au cœur par cet appel qui est simplement l'appel de l'Évangile. Alors, depuis deux siècles, l'Église a développé ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, qui est très très méconnue, qui est souvent considérée comme une option. Si on a le temps, si on a de l'argent, si on y pense, enfin, etc. Et de mettre cette doctrine sociale au niveau d'une option politique ou d'une opinion politique. Or, elle fait partie même de la foi des chrétiens. Et depuis Léon XIII, Jean-Paul II l'a rappelé très fortement à son tour, et Benoît XVI et François insistent beaucoup, et les derniers grands textes de François, Laudato si d'une part et Fratelli tutti d'autre part, font une espèce de synthèse de toute cette doctrine sociale qui n'est pas optionnelle pour un chrétien. Et donc, voilà, cette doctrine sociale, elle dit que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, les étudiants étrangers, dans tous les cas, l'accueil fait partie de l'attitude chrétienne qui est incontournable. D'autant plus si les personnes sont persécutées, affaiblies, poussées par la famine, par la guerre. Bon, voilà, c'est un devoir pour nous. Évidemment, on ne souhaite pas que ces personnes soient mises dans l'obligation de quitter leur pays. Mais si elles le font et qu'elles frappent à notre porte, comme chrétiens, nous avons une obligation imposée par l'Évangile. Voilà, voilà ce que dit la foi des chrétiens. Évidemment, ce n'est pas sans incidence au plan économique et politique, mais l'Esprit Saint sait nous suggérer, normalement, des attitudes qui sont justes du point de vue de la foi et dont on n'aura pas à rougir le jour où on paraîtra devant le tribunal de Dieu.
Merci pour ce point sur l'actualité du monde. Alors on va passer à l'actualité de l'Église diocésaine et on va faire, si vous voulez bien, un retour sur votre rencontre avec tous les prêtres du diocèse. C'était jeudi dernier, le 10 novembre. Comment l'avez-vous vécu cette rencontre et puis qu'est-ce qu'il en est ressorti?
Je l'ai vécu comme un grand moment. Pour moi, c'était ma première vraie rencontre avec l'ensemble des prêtres du diocèse, des prêtres qui travaillent dans le diocèse et au service du diocèse. Qu'ils soient incardinés au diocèse ou prêtres venus d'ailleurs, comme on dit, ou prêtres du sanctuaire, mais qui ont aussi un lien pastoral et missionnaire avec le diocèse. Et ça a été une rencontre qui a duré toute la journée. Ils étaient tous là, ça m'a beaucoup impressionné, il y avait une vraie attente, notamment de la part des prêtres après l'assemblée plénière que nous avons vécue dans les conditions dont on a parlé la semaine dernière, et l'attente d'une parole. Et on a consacré la matinée à échanger vraiment au sujet de ce qui s'était passé pendant l'Assemblée des évêques, et notamment sur la question des abus révélés concernant plusieurs évêques. Bon. Ça a été un moment de vérité où moi j'ai pu redire aux prêtres ma confiance, mon soutien, mon accompagnement, ma prière pour eux, vraiment, et je pense qu'ils y ont été extrêmement sensibles, mais où eux aussi ont eu l'occasion de me dire leur soutien, leur confiance, leur prière, et j'y ai été aussi extrêmement sensible. Donc ça a été un moment très fraternel et très bienfaisant dont nous avions besoin, après les traumatismes vécus les quelques jours qui précédaient. Bon. Et qui demeurent encore aujourd'hui, bien évidemment. Hein. Bon. Deuxièmement, le but de cette rencontre, c'était aussi de tourner notre regard vers la mission, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est pour ça que l'Église existe, et donc notamment de doter notre diocèse de nouveau conseil presbytéral, qui est une émanation de l'Assemblée que nous avons vécue le 10 novembre. Et donc, pour reprendre les statuts existants, voir comment les adapter, ils datent de 1975, les adapter à la situation de notre presbytérium et de notre diocèse aujourd'hui, pour avoir un vrai conseil presbytéral représentatif de la réalité du diocèse, et qui soit un vrai conseil de l'évêque. Et j'ai beaucoup insisté là-dessus. L'ensemble des conseils qui assistent l'évêque dans sa mission doivent être des lieux de parole, de suggestion, d'accueil de l'Esprit-Saint, d'écoute de l'Esprit-Saint et de suggestion libre. Sinon, si c'est un conseil de béni oui, ça ne sert strictement à rien. Et partant du principe qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul et que l'Esprit-Saint inspire tout le monde, et bien parmi les conseils de l'évêque, il y a le conseil du presbytérium, et il faut que la parole soit libre au sein de ce conseil, et que donc, dans les modalités de désignation de délégués, etc., ils envoient des gens qui ont quelque chose à dire, qui soient réellement ensuite capables de rendre compte au retour chez eux de ce qui s'est vécu en conseil, pour recueillir l'avis des uns et des autres, et donc qui soient aptes aussi au travail un peu en commun, à la collaboration, etc. Bon. Nous avons évoqué un deuxième sujet qui est tout aussi important, c'est celui de la création d'un autre conseil qui n'existe pas encore dans le diocèse, qui n'a pas existé encore, c'est celui d'un conseil diocésain de pastoral. C'est à l'image d'un conseil pastoral paroissial, mais à l'échelle du diocèse. Et je compte sur l'assemblée post-synodale qui est prévue en début d'année 2023 pour poser les jalons de la mise en place d'un tel conseil dont notre diocèse a besoin, dans l'esprit de ce que nous sommes invités à vivre pour inscrire la manière synodale de vivre l'Église dans nos structures, dans nos pratiques habituelles. Pas seulement parce qu'il y a un synode dans un an ou dans deux ans, mais parce que c'est comme ça que l'Église doit être. Et donc, on a abordé ce sujet aussi pour que les prêtres puissent s'exprimer sur leur manière de sentir les modalités de mise en place d'un tel conseil.
Et donc, ce second conseil sera composé pas seulement de prêtres, mais aussi d'hommes et de femmes qui sont des chrétiens qui vivent dans différents coins du diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Essentiellement. De ces chrétiens-là. Le conseil des prêtres, c'est le conseil presbytéral. Le conseil diocésain pastoral, c'est, avec les pasteurs du diocèse, un conseil de chrétiens du diocèse qui viennent des différentes réalités du diocèse, paroisse, mouvement, service.
Voilà, donc affaire à suivre pour ce conseil. Nous terminons, Monseigneur Jean-Marc Mika, avec un petit mot sur le temps liturgique. Nous fêterons ce dimanche la fin de notre année liturgique, le dimanche du Christ-Roi. Que fête-t-on exactement ce dimanche 20 novembre ?
Eh bien, il faut regarder l'évangile de ce dimanche pour constater que le trône du roi dont on parle, c'est la croix. Et sur la croix, le Christ domine ce qui nous domine habituellement, c'est-à-dire, pour faire vite, la mort et le péché. La mort, c'est la réalité de notre biologie mortelle. On n'y est pour rien, c'est comme ça, parce qu'on est des vivants, on est des mortels. Et bien sûr, la croix, le Christ manifeste que Dieu est le maître de la vie, de la mort et de la vie. Bon. Mais nous ne sommes pas limités seulement par la mort biologique, nous sommes limités aussi par ce que nous appelons le péché, c'est-à-dire les conséquences de l'usage tordu que nous faisons de la liberté que Dieu nous a confiée en nous créant, à son image et à sa ressemblance. Et à cette limite biologique naturelle, nous rajoutons du mal. Et le Christ, là aussi sur la croix, manifeste qu'il est le maître de ce mal, qui n'a pas le dernier mot. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et le Christ roi qui nous est donné à contempler, c'est celui qui vient dominer la mort et le péché, et donc briser leur loi qui s'imposait jusque-là, leur loi inéluctable et incontournable, et donc ouvrir un chemin vers la vraie vie, ce à quoi le cœur de l'homme aspire de toutes ses forces, intuitivement, parce que créé à l'image de la ressemblance de Dieu, Dieu a posé en lui ce désir-là. Voilà. Et donc, le Christ roi que nous célébrons au terme de l'année liturgique, c'est celui qui vient réellement ouvrir le chemin de la vie. Et précisément, le temps qui s'ouvre le dimanche suivant, le temps de l'Avent, nous met en attente le regard tourné vers le ciel.
C'est le Christ roi de l'univers et donc roi de tous les hommes, y compris ceux qui ne le connaissent pas encore.
C'est le roi de la vie, le roi de tout de l'univers, en effet, comme on dit, oui. Et puis le roi, le maître de nos vies, le maître de notre intériorité, le maître de nos décisions, le maître de nos choix, etc., etc. Et ça vient rejaillir, non seulement parce que ça tourne nos yeux vers le ciel comme un horizon, mais ça vient aussi concerner la manière dont nous organisons la vie du monde dès maintenant. Notre vie personnelle, mais aussi collectivement notre vie commune. Et c'est là la dimension politique aussi de l'être chrétien et de l'engagement des chrétiens dans l'organisation de l'histoire et la vie du monde. Et le Christ roi nous tourne vers cette dimension qui est inscrite en nous le jour du baptême, où nous sommes créés à l'image et à la ressemblance du Christ, et configurés à lui, prêtre, prophète et roi, donc rendus capables, nous aussi, de traduire ce que nous savons de l'horizon du monde et de l'histoire dans la manière d'organiser le monde.
Un grand merci à vous, Mgr Jean-Marc Mika. Alors nous vous souhaitons une belle fin d'année liturgique et un bon début de nouvelle année liturgique. Donc, et puis nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup, Mgr Mika.
Merci beaucoup, bonne semaine à tous.